nous écouter sur le continent africain. Et puis si vous voulez suivre autrement, c'est aussi sur notre site www.rfi.fr avec tous les comptes rendus de match. Tout de suite, ici l'Europe. Merci d'écouter RFI.
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bienvenue et bon début de journée à tous. La semaine dernière, nous avions commencé la découverte d'un livre qui cherche à remettre la femme à sa place dans l'histoire. Les Grandes Oubliées, écrit par Titiou Lecoq, aborde ce sujet à travers plusieurs exemples et époques. Je vous avais lu son chapitre sur les femmes dans la littérature. Et si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous pouvez le retrouver sur le site internet radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre ». Et maintenant, pour aujourd'hui, je vais vous plonger dans le rôle de la femme pendant et après la Première Guerre mondiale. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Début du XXe siècle, les femmes dans l'arène ou à la maison. On commence avec une histoire sordide. Août 1916, une jeune domestique de 19 ans, Joséphine Barthélémy, réfugiée à Meurthe-et-Moselle, tue le bébé dont elle vient d'accoucher dans les toilettes. En janvier 1917, elle comparaît pour infanticide devant la cour d'assises de la Seine. Elle est acquittée sous les applaudissements du public. Pourquoi applaudit-on une femme qui a tué son enfant ? Le bébé était le fruit d'un viol par un soldat allemand. La jeune femme s'est défendue en plaidant l'acte de guerre. Elle a simplement supprimé un petit allemand. Son avocat posera ainsi la question. Joséphine est-elle coupable de n'avoir pas laissé vivre l'enfant de ceux qui ont tué vos fils ? C'est avec ce procès que l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau commence son livre « L'enfant de l'ennemi ». Grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, il démontre que l'historiographie de cette époque a invisibilisé les violences sexuelles. Il dénonce l'écriture d'une histoire vidée d'une partie de ces événements comme aseptisée, qui occulte la violence contre les femmes. Pourtant, ces viols ont d'autant plus leur place dans l'histoire de la guerre qu'ils ont précisément été utilisés comme une arme. Le viol de guerre a plusieurs caractéristiques. La plupart du temps, il est collectif. Il se pratique entre camarades de combat, ce qui fait de lui à la fois un ciment du groupe et un exutoire à l'horreur des combats. Mais surtout, le viol de guerre est public. Il se déroule souvent devant témoins, parce qu'il s'agit de démontrer sa domination. Concernant la Première Guerre mondiale, en France, ces viols ont essentiellement eu lieu lors des périodes d'invasion de 1914. On parle de vagues de viols. Et dès 1915, comme le montre l'affaire Joséphine Barthélémy, se pose avec acuité à la société française la question du devenir des enfants qui en sont issus. Ce que montre également cet usage des viols, c'est un affrontement des masculinités. Derrière la femme violée, il y a un homme. Ceci explique d'ailleurs une autre caractéristique. Les victimes peuvent avoir tous les âges. Il ne faut pas croire que la cible est forcément la jolie jeune fille du village. Les femmes victimes ont entre 12 et 72 ans. Parce que l'important, c'est qu'il s'agisse de la femme, de la fille, de la mère, d'un Français qu'on humilie. Cela aggrave la crise de masculinité qui naît du conflit. La guerre mondiale de 14-18 provoque un choc profond, un véritable traumatisme. Ces nations qui se pensaient supérieures au-dessus des autres peuples, dirigées par des hommes européens cultivés, qui se voyaient comme l'avant-garde de la modernité éclairée, plongent dans l'horreur de la guerre moderne qu'ils ont inventée. Comment trouver de la noblesse ou de la fierté dans cette boucherie, dans les tranchées boueuses au milieu des cadavres, des amputations et de toutes les défigurations que les armes nouvelles provoquent? À la fin des combats, la France a certes gagné, mais les hommes reviennent traumatisés. Certains en veulent aux femmes qui ont pris leur place dans la société et n'ont pas vécu le même cauchemar qu'eux. Pour eux, les femmes font partie des planqués. On les soupçonne même d'avoir bien profité pendant ce temps-là. On dit souvent que la guerre a permis une libération des femmes, en les laissant remplacer les hommes au travail. Mais ce point reste très discuté par les historiennes. Ce qu'on constate surtout, pour la majorité des femmes, c'est que dans l'après-guerre, cette crise de la masculinité entraîne un renforcement des rôles genrés traditionnels. La démobilisation des femmes est rapide et brutale. Du jour au lendemain, elles sont renvoyées à leur ancienne place. Les hommes veulent retrouver le monde d'avant et les femmes d'avant. Le remplacement des hommes était exceptionnel et temporaire. Comme la guerre était un événement exceptionnel qui a déréglé un monde qu'il s'agit désormais de remettre à l'endroit. Les femmes sont ramenées à leur mission principale sur Terre, être des utérus dociles et productifs. En 1920 et 1923, la France adopte des lois qui réprimandent toute propagande antinataliste et renforcent l'interdiction de l'avortement. Ce sont les lois les plus répressives d'Europe. Concernant l'avortement, on décide de le correctionnaliser. Cela consiste à transformer ce qui était un crime en simple délit. Les peines seront-elles donc moins lourdes ? La manœuvre est bien plus vicieuse. Les avortements étaient jusque-là jugés aux assises, donc par de simples citoyens. Or, on trouve les jurés populaires très indulgents dans ces affaires. Ils acquittaient 80% des inculpés. On se dit qu'en correctionnalisant ces affaires, elles passeront devant des juges professionnels qui vont être plus sévères et appliquer strictement les textes. De fait, le taux d'acquittement tombe à 19% entre 1925 et 1935. J'en profite pour vous raconter ici la triste fin de Madeleine Pelletier, notre féministe psychiatre, prête à briser tous les carreaux pour défendre les femmes. Elle est arrêtée en 1939. On l'accuse d'avoir pratiqué un avortement sur une fille de 13 ans qui avait été violée par son frère. Madeleine clame son innocence. Elle est hémiplégique et n'aurait pu mettre en œuvre cette procédure. Le tribunal l'admet, mais statue qu'elle est tout de même un danger pour les autres et elle-même, et la condamne à l'internement. Elle meurt à l'hôpital le 29 décembre 1939. La première femme française diplômée en psychiatrie est morte à l'asile. Tout cela témoigne d'une obsession nataliste et d'une répression des droits des femmes. Il y a ce qu'on peut appeler une nationalisation des femmes. Elles s'appartiennent encore moins qu'avant. Elles sont un bien national dont la fonction est de repeupler le pays. Dès 1918, l'État met en place des cérémonies en l'honneur des mères. Les mères de familles nombreuses reçoivent une médaille. Et le discours médical insiste sur le besoin de disponibilité maternelle parce qu'elles ont la charge de l'hygiène morale des enfants. Se développent alors des leçons de puériculture. La bonne mère se fait éducatrice et infirmière. La femme a la responsabilité du bien-être des membres de sa famille, et donc de leur santé, et pèse de plus en plus sur la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre « Les grandes oubliées » de Titiou Lecoq. Bonne écoute! Après la Première Guerre mondiale, nombre de pays accordent le droit de vote aux femmes. L'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Turquie. Mais un petit pays résiste vaillamment à l'invasion des méchantes féministes, la France. Messieurs, dames, chez nous, il est hors de question de laisser ces folles à utérus voter. Une femme qui vote, quelle horreur, quelle saleté. Pour débloquer la situation, le Parti communiste accepte de présenter des femmes sur ses listes aux élections municipales de 1925. Il use d'une certaine mauvaise foi pour contourner l'interdiction. Le fait de porter un nom de femme ne constitue pas et n'a jamais constitué un cas de nullité, affirme le journal L'Humanité, car les déclarations de candidature ne sont nullement obligatoires et que, ne comportant la présentation d'aucun papier d'identité, personne n'a qualité pour certifier le sexe du titulaire d'un prénom féminin. Ainsi, Marthe Tesson peut se présenter puisque rien ne prouve qu'elle est une femme au moment du dépôt des listes. Elles sont une dizaine à être élues, mais c'était couru d'avance, malgré l'embrouille sur les prénoms, le Conseil constitutionnel ne valide pas leur élection. Les femmes ne sont toujours pas admises à la citoyenneté, pourtant l'Assemblée nationale finit par laisser passer la loi qui leur accorde ce droit. Mais le Sénat met son veto à chaque fois, avec un acharnement qui force presque l'admiration. Il va bloquer 6 fois le texte durant l'entre-deux-guerres. En face, la relève a été assurée. À cette époque, elles sont plusieurs à organiser des actions en faveur du droit de vote des femmes. Citons d'abord Maria Véron et son slogan « La femme paie l'impôt, la femme doit voter ». Par chance, nous avons un enregistrement de sa voix lors d'une conférence sur le féminisme. Je ne résiste pas au plaisir de vous retranscrire le début. Le féminisme n'est pas, comme voudraient le faire croire certains adversaires de mauvaise foi, un programme de revendication émanant de quelques vieilles filles aigries dans le célibat et d'épouses acariâtres déçues par une union malheureuse. Le féminisme est une doctrine philosophique basée sur l'égalité de tous les êtres humains et qui a pour but d'établir l'égalité des sexes dans tous les domaines, civils, politiques, intellectuels, économiques et sociaux. Allez écouter ces 6 minutes. Une autre figure féministe de l'époque, c'est Louise Weiss. Journaliste, elle fonde le mouvement La Femme Nouvelle. La militante féministe anglaise Sylvia Pankhurst lui donne alors un conseil. Il faut que vous soyez à la une des journaux tous les jours. Louise Weiss se demande comment faire, avant de trouver son arme, l'ironie. Pendant 4 ans, à partir de 1934, elle mène ce qu'elle appelle sa campagne d'ironie. Alors que les députés doivent de nouveau débattre du droit de vote féminin, elle organise une distribution de myosotis, une fleur qui signifie « ne m'oubliez pas ». Avec d'autres militantes, elle perturbe la finale de la Coupe de France de foot de 1936 en lâchant des ballons rouges lestés de tracts dans le stade. Je n'ose imaginer le scandale si de nos jours, des féministes interrompaient une finale de foot. Elles offrent aux sénateurs des chaussettes avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. » Lors du Grand Prix de Longchamp, elles investissent la piste avec des pancartes « La Française doit voter ». Elles s'enchaînent les unes aux autres pour bloquer une rue de Paris. Mais rien n'y fait, le Sénat continue de mettre son veto. On aboutit à une situation absurde en 1936. Léon Blum nomme dans son gouvernement le Front Populaire 3 femmes à des postes de sous-secrétaire d'État. Cécile Brunswick à l'éducation, Irène Joliot-Curie à la recherche et Suzanne Lacor à la protection de l'enfance. On raconte qu'il aurait proposé un poste à Louise Weiss qui aurait répondu « J'ai lutté pour être élue, pas pour être nommée ». Elles travaillent leur dossier, mais en tant que femmes, elles ne peuvent pas prendre la parole à l'Assemblée nationale. De toute façon, l'expérience ne dure qu'un an, le refus institutionnel de les accepter dans la vie politique est tenace. Les féministes remportent malgré tout des victoires. Louise Weiss et Maria Véron unissent leurs forces pour avoir la tête de Raymond Duplantier, un sénateur qui avait l'habitude de tenir des propos misogynes. Alors qu'il se présente à sa réélection en 1935, Weiss lance ce qu'elle appelle carrément une expédition punitive. Avec d'autres militantes, elles sillonnent le département et tiennent des meetings contre lui. Maria Véron diffuse des tracts et des affiches dénonçant le sénateur. Il est battu au premier tour et se retire de la vie politique. Mais de manière générale, les femmes, on les préfère cantonnées à leur domaine, leur précaré, leur habitat naturel, où elles peuvent s'ébrouer tranquillement, et c'est la maison. Difficile de parler des femmes sans parler des maisons. la manière de tenir son foyer devient un sujet sérieux dans les années 1920. On crée alors la figure de la ménagère, qui triomphera dans les années 1950. Et ce qu'on appelle l'économie familiale se développe comme une matière à part entière. Il s'agit dans un premier temps de faire progresser l'hygiénisme. La grippe espagnole a fait des ravages en 1918-1919. L'époque est aux mesures de prévention des maladies. L'air vicié serait la cause de tous les maux. L'historienne Yvonne Kneibeiler s'est intéressée à la manière dont la lutte contre la tuberculose a servi à médicaliser les classes populaires. Les médecins s'appuient alors sur les dames patronesses, dont nous avons déjà parlé. Il faut aérer les pièces. On parle d'organismes invisibles découverts par Pasteur et dont il faut se méfier. Cette médicalisation, faisant des femmes des auxiliaires des médecins auxquels elles doivent obéir, achève un phénomène d'acculturation féminine. La culture féminine des soins traditionnels disparaît. On écoute le médecin plutôt que le savoir-faire des femmes de son entourage. Mais dans cette lutte pour améliorer la santé publique, les exigences en matière de propreté montent brusquement en flèche, entraînant une surcharge de travail pour les femmes. Dans les cours d'éducation ménagère, on insiste sur la nécessité de bien tout laver pour éliminer les germes, des couverts jusqu'à la literie, qu'il faut aérer. Tout au long de leur scolarité, les filles apprennent comment lessiver, blanchir, dégraisser, conserver les différents types d'aliments. On multiplie les cours de puériculture. Les progrès de la médecine et de l'hygiène pour diminuer la mortalité infantile doivent s'enseigner. On ne compte pas du tout sur un instinct maternel infaillible. Bien au contraire, il faut apprendre aux mères et l'État est là pour le faire. Paradoxalement, c'est plutôt de nos jours qu'on parie sur un potentiel instinct maternel. Les jeunes parents apprennent quelques gestes pendant les 2 ou 3 jours passés la maternité, puis repartent avec une brochure. Ce qu'on appelle élégamment les arts ménagers se développe. Le premier salon qui leur est consacré se tient en 1923 au Grand Palais, sous le patronage du ministère de l'Éducation, avec un slogan choc « Transformer par l'exemple et l'éducation les Françaises en ménagères modernes ». Il s'agit également de familiariser les familles avec les nouveaux appareils ménagers qui apparaissent, même si presque personne n'a les moyens de se les offrir pour l'instant. Mais la technique ménagère va connaître une autre révolution, idéologique celle-là. Si on compte toutes celles qui doivent travailler à l'extérieur, par exemple celles qui se retrouvent veuves et chefs de famille, 600 000 femmes, ou celles qui récupèrent un mari ou un fils physiquement et psychologiquement détruit par la guerre, ça fait un paquet de femmes. Et en même temps, on leur demande de repeupler le pays. Du boulot, elles en ont par-dessus la tête, et pourtant, il faut aussi tenir propre sa maison et sa famille en respectant les nouvelles normes. Les arts ménagers prennent alors une tournure inattendue. Il va s'agir, paradoxalement, de libérer les femmes. Ce livre recèle encore de bien des chapitres et femmes qui auraient dû marquer l'histoire. Il est à découvrir aux éditions Proches et a récemment été adapté sous forme de BD par la maison d'édition L'Iconoclaste. Vous pouvez aussi toujours retrouver les 2 émissions dédiées à ce livre sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre ». Et petit clin d'œil à l'émission « Elle était une fois » que vous pouvez aussi retrouver sur Radio G les mercredis à 13h en semaine impaire ou sur sa rubrique éponyme. Si le sujet du féminisme vous touche, cette émission est pour vous. Nous allons, la semaine prochaine, rester en quelque sorte sur le thème du passage sous silence de la femme avec un roman dystopique. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G. www.radio-g.fr.
I have to say may be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing